Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. A-t-on le droit de juger autrui? C'est la question très actuelle que pose l'Épître d'aujourd'hui. Et elle semble, à première vue, renforcer l'idée très répandue selon laquelle il n'est jamais permis de juger les actes d'une autre personne. Vous savez que c'est devenu aujourd'hui un slogan inévitable, pour ne pas dire un dogme républicain, à chacun sa vie, à chacun ses choix, à chacun ses valeurs, personne n'a rien à y dire tant que cela ne met pas en cause la liberté d'autrui. Et vous connaissez l'origine de cette doctrine, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui fait de la liberté personnelle le principe fondamental et qui déclare que cette liberté n'a pas d'autre borne que la liberté d'autrui. Récemment, un étudiant me racontait comment ce principe a envahi toute notre société au point qu'autour de lui, chacun se croit le droit d'émettre sur tout sujet les avis les plus loufoques. Et quand on essaye de discuter avec lui, coupe court en déclarant « ce sont mes valeurs, tu n'as pas à en juger ». Donc interdiction de porter aucun jugement sur les actes ou les déclarations d'autrui. Il est évident qu'une société fondée sur ce principe ne peut aller qu'à l'anarchie, ou plutôt à une tyrannie, puisque de fait, ce sont les plus forts qui imposeront leurs lois. On voit d'ailleurs déjà autour de nous combien cette liberté est en réalité beaucoup plus accordée à certains qu'à d'autres. Mais l'étudiant en question me faisait remarquer que lorsqu'il contestait ce principe, il entendit un catholique officiel lui dire « mais c'est dans l'Évangile, c'est marqué dans l'Évangile qu'il ne faut pas juger ». Et effectivement, on peut trouver cette sentence « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Et on vient d'entendre dans l'épître de Saint Paul qui nous déclare « ne jugez pas avant le temps ». Alors, que faut-il en penser? D'abord, il faut bien comprendre le principe qui est à la base de cette recommandation, de ce conseil. Le principe moderne qui dit « vous ne devez pas juger autrui », le principe moderne, c'est que chacun a sa conscience pour seul juge. Et cette conscience est infaillible, donc chacun doit agir selon ce qu'il pense et personne ne peut lui faire le moindre reproche s'il peut déclarer la main sur le cœur « j'agis selon ma conscience ». Si l'on regarde bien ce que nous enseigne saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Saint Paul nous déclare que notre conscience n'est pas le juge absolu. Il nous dit « ma conscience ne me reproche rien ». Mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Et de façon logique, saint Paul en tire la conséquence, si je ne suis pas capable de me juger moi-même avec certitude, alors, a fortiori, je ne suis pas capable non plus de juger les autres avec certitude. Donc, je dois être très prudent dans la façon dont je juge les autres. Donc, vous voyez qu'on arrive à une conclusion qui n'est pas exactement la même, qui a une certaine ressemblance, mais qui part du principe tout à fait contraire. C'est la chose, d'abord, à bien comprendre. Il va de soi que lorsque saint Paul dit qu'on ne peut pas se juger soi-même, il entend « on ne peut pas se juger avec une pleine certitude ». Il n'entend pas enseigner que nous ne devons jamais examiner notre conscience ni confesser nos péchés, au contraire. En revanche, si l'on peut, et pour soi et pour les autres, dans certains cas, savoir avec certitude que des actes mauvais ont été commis ou des actes bons, il est toujours beaucoup plus délicat d'aller juger exactement de la responsabilité personnelle. Et c'est là la distinction importante qui est souvent oubliée aujourd'hui, la distinction entre les actes ou les paroles, les actes objectifs, et la responsabilité personnelle, la responsabilité exacte de celui qui agit. La responsabilité exacte, seul Dieu peut la connaître, parce que seul Dieu peut peser toutes les circonstances, aussi bien atténuantes qu'aggravantes, voir réellement quelle a été l'intention. Et donc, il importe toujours d'être prudent lorsque l'on veut en juger. Mais si l'on ne peut pas savoir de façon exacte la responsabilité de la personne, jusqu'à quel point elle a péché et quelle est la gravité de son péché, on peut en revanche, en beaucoup de cas, déclarer avec certitude tel acte est mauvais ou tel enseignement est faux. Et c'est souvent une charité à faire que de le déclarer et de le déclarer publiquement, d'être capable de dire aux gens avec charité « non, cela est faux » ou « non, cela est mauvais ». Dans certains cas, cela ne servira à rien. Dans certains cas, il faudra même s'abstenir parce qu'on saura que cela ne fera que renforcer le mal, on se taira, mais dans certains cas, il faut être capable de le dire. Posons-nous la question, dans quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut dénoncer les actes de quelqu'un ? C'est le problème de ce qu'on appelle la médisance. Et un certain nombre de distinctions s'imposent, notamment savoir si l'acte dont on va parler est un acte privé et secret que personne ne connaît ou si c'est un acte public qui est connu de tout le monde et qu'on, dans ce cas-là, on ne va pas révéler. Il n'est permis que très rarement de révéler des actes mauvais commis par quelqu'un parce que c'est détruire sa réputation. Ça peut être permis dans quelques cas s'il y a vraiment une utilité. Par exemple, si vous connaissez un escroc et que vous voyez qu'une personne va se faire escroquer par lui, il est tout à fait permis, il est même juste et bon, de mettre en garde la personne parce que cela a une utilité. Si, en revanche, il n'y a aucune utilité, il faut se taire et ne pas révéler le mal d'autrui. Les choses sont un peu différentes lorsqu'il s'agit de faits que tout le monde connaît. Et dans un certain nombre de cas, il va falloir les dénoncer pour pouvoir lutter contre les erreurs qui sont diffusées ou bien pour contrebalancer le mauvais exemple que peuvent donner ces actions. Donc, il ne faut pas avoir honte, dans certains cas, de critiquer. Et parfois, on nous demande en confession, a-t-on le droit de critiquer ce que font les hommes politiques ? Que répondre ? Il faut d'abord répondre qu'il faut éviter de ressasser inutilement des choses que tout le monde connaît et donc de trop en parler, ne pas s'enfermer dans la colère qui ne mène à rien. Mais si, dans certains cas, il faut mettre en garde des gens autour de nous, ou bien si un père de famille veut former ses enfants à un jugement sain sur la société dans laquelle il vit, oui, il est tout à fait permis, bien sûr, de critiquer ces hommes politiques et de faire remarquer combien telle action est mauvaise et qu'elle aura telle ou telle conséquence. Il y a évidemment un juste milieu à garder avec cette considération que l'être humain a généralement tendance plutôt à trop critiquer qu'à ne pas le faire assez. Il faudra donc savoir se limiter, se restreindre et puis éviter, encore une fois, de ressasser ce qui ne fera qu'entraîner de la rancune ou de la colère. Néanmoins, il est permis de dénoncer les actes mauvais d'autrui dans la mesure où cela a une utilité. Troisième point, vous pourrez me demander, et quant à la responsabilité personnelle, ne peut-on absolument jamais en juger ? Réponse, on ne peut jamais en juger avec une certitude absolue, c'est sûr, parce que cela se fera au jugement dernier et seul Dieu pourra le faire. Mais ici-bas, certaines personnes ont parfois une autorité qui va les contraindre à porter un certain jugement. Et saint Thomas enseigne que trois conditions sont requises pour permettre de porter un jugement sur autrui. Premièrement, dit-il, que ce jugement procède de l'inclination de la justice. Autrement dit, le but doit être d'être juste. Et il faut ici faire attention à tous les sentiments qui peuvent venir parasiter la justice, tout ce qui peut ressembler en particulier à la haine ou à la jalousie. Donc, première condition, le jugement doit être inspiré par la justice. Deuxième condition donnée par saint Thomas, le jugement doit être fait selon la droite raison de la prudence. Autrement dit, il faut savoir peser soigneusement les circonstances et ne pas juger de façon précipitée. Donc il faut que le jugement soit juste, qu'il soit fait avec prudence. Enfin, troisième condition donnée par saint Thomas, il faut que ce jugement soit fait par l'autorité de celui qui préside. Autrement dit, il faut, pour porter un jugement sur l'intention d'autrui, un jugement qui permettra de lui faire une réprimande, il faut avoir une certaine autorité sur la personne en question. Et évidemment, cela va dépendre de l'autorité en question. L'autorité du confesseur n'est pas la même que l'autorité du grand frère, qui n'est pas la même que l'autorité du père de famille ou de la mère de famille. Donc, plus ou moins selon les cas, mais il faudra, dans certains cas, être capable, avec justice et avec prudence, dans la mesure où l'on a autorité, de porter un certain nombre de jugements. Voilà donc ce qu'il faut savoir au sujet de la façon dont nous pouvons juger autrui. Mais gardons toujours à l'esprit que nous avons une tendance très forte qui vient du péché originel à être dur avec les autres et indulgent avec soi-même. Donc il faut toujours essayer de réprimer cette tendance et c'est notamment ce que nous pourrons demander à notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir dans la crèche et qui va venir nous donner un grand exemple d'humilité et de douceur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui, oui, sera notre juge et viendra au jugement dernier pour envoyer tous les mauvais en enfer et placer les bons à sa droite, mais qui a voulu que ce jugement définitif, ce jugement terrible, soit précédé par cette grande avance de sa miséricorde. Il n'a pas voulu venir d'abord comme juge, il a venu d'abord voulu venir comme sauveur et nous offrir sa miséricorde. Et il nous offre ici un grand exemple de la façon dont nous devons agir avec les autres. Nous devons toujours être justes, mais nous devons encore plus être miséricordieux que justes de la façon dont Dieu l'est avec nous. Donc demandons, à l'occasion de cette fête de Noël, à grandir dans cette humilité, cette douceur, cette miséricorde dont notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère nous donnent l'exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.